quelque chose dans le chapitre. Donc on va reprendre dans Romains chapitre 8. Et je vais lire à partir du verset 18 jusqu'à 27. Et puis et ensuite, on prendra le verset 23. Donc, Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et que ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Verset 25, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît les pensées de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le verset que nous voulions voir, c'est le verset 23. Donc, et ce n'est pas elle, c'est-à-dire la création, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes et nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc la rédemption de notre corps, c'est la pensée que je veux relever ce soir. Ça va être notre verset tremplin. Déjà, le mot « rédemption », peut-être c'est pas un mot qu'on retrouve dans le langage de tous les jours. Notre mot, c'est « racheter », un synonyme, c'est « racheter ». Mais quand on parle de rédemption, quand on dit ou « rachat », quand je dis « rachat », ça veut dire, avec le « r » au début, ça veut dire « achat », mais une deuxième fois. Hein, racheter, ça veut dire que ça appartenait, et après quelque part rien, ça a été perdu ou que ça a été passé ailleurs, et après je rachète. Hein, donc c'est cette notion, hein, et rédemption, c'est rédemption, ça va toujours avec cette idée de dans le langage romains, hein, de l'époque de Rome, dans leur langage, cette notion de rédemption, c'était l'idée d'un esclave qui est rendu la liberté. Donc il était libre, et puis il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait de lui un esclave, et maintenant, il y a un prix qui a été payé, et il retrouve la liberté. C'est l'idée dans le mot romain, latin, donc, mais ici c'était le mot grec qui était donné, mais c'était le concept là, c'était de quelqu'un qui a été, qui a retrouvé sa liberté. Et donc ici il nous parle, il nous dit la rédemption de notre corps. Il dit, bon, rédemption de notre corps, ça correspond à quoi exactement ? Alors, bon, pour ceux qui sont en train de suivre les lectures, comme ça, vous avez déjà, et si vous n'êtes pas trop en retard, vous avez lu Exode chapitre 30. Exode chapitre 30, et c'est là où on va aller chercher cette notion pour un peu la comprendre dans la Bible. ce que signifie cette rédemption. Donc Exode chapitre 30, donc vers le début de la Bible, c'est le deuxième livre, hein, Genèse, Exode. Donc Exode est au chapitre 30 et au verset 11. Eh bien, je vais lire Exode 30, verset 11 jusqu'au verset 16. Donc ici, pour situer le passage, pour vous dire exactement où on se trouve, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Ça y est, ils ont traversé la mer Rouge, ils sont au pied du mont Sinaï et ils sont en train de recevoir les ordonnances et les prescriptions de Dieu. Et parmi tout cela, eh bien, ce qui est connu comme les 10 commandements ou le décalogue. Donc verset 11, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire, qui est le de 20 guéras. Un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, paiera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne paiera pas plus, le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle, comme don prélevé pour l'Éternel, afin de racheter leur personne. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Pour le rachat de leur personne. Vous dites, mais d'accord, j'ai entendu, ils étaient esclaves en Égypte. Dieu les a fait sortir. Donc ils ont été libérés, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont été libérés. Et maintenant qu'ils sont sortis, Dieu dit, bon maintenant, pour tous ceux qui sont adultes, donc 20 ans et au-dessus, vous allez chacun payer une certaine somme d'argent, la même somme d'argent pour chacun, c'est le prix de votre rachat. Pourquoi ? Puis on dit, oui, mais je me souviens aussi que en Égypte, là, ils avaient tué un agneau, ils avaient pris le sang, puis ils avaient mis sur les deux poteaux de la porte et sur le linteau de la porte, et puis chaque famille qui était dans cette maison, le premier-né était sauvé. Donc, est-ce qu'il n'a pas été sauvé par le sang ? Si, mais il faut se souvenir que ce soir-là, tous les premiers-nés étaient condamnés à mort. Hein, donc, et le sang, là, a protégé la maison et tous ceux qui se trouvaient dans la maison. Autant de premiers-nés qu'il y avait. Mais ici, il est en train de dire, mais tous ceux qui ont 20 ans et au-dessus, vous étiez tous des esclaves. Et je vous ai rachetés. Donc il y a un prix à payer. Pour que vous compreniez, il faut que vous saisissiez le fait que ce que veut dire le rachat et que maintenant vous appartenez à Dieu. Vous êtes rachetés chacun. À partir de l'âge de tous ceux qui avaient 20 ans et au-dessus, donc tous ceux qui étaient adultes, il a dit tous les hommes, eh bien, vous paierez chacun une certaine somme. Et puis la deuxième remarque que je fais, c'est que tous payaient la même somme. Il dit que soit pauvre ou riche, c'était le même prix. Parce que le prix, ce n'était pas le prix du travail que pouvait fournir l'homme, mais c'était c'est son prix. Dieu rachetait l'homme, pas son travail. Vous savez, dans la société, on paye les gens en fonction de ce qu'ils peuvent me faire gagner. Hein. Si c'est quelqu'un qui a des diplômes et qui me fait gagner beaucoup d'argent, il faut que je paye plus. Si c'est quelqu'un qui ne va pas me rapporter beaucoup, je paye moins. Et dans la société, en fait, le prix, le salaire est en fonction de ce que je peux produire, ce qu'ils pensent que je peux produire. Tandis que Dieu ne s'intéresse pas à ce qu'on peut produire pour lui, il s'intéresse à nous. Hein? Donc, pour Dieu, il a dit non. Alors, donc, le pauvre ou le riche, devant Dieu, c'était la même valeur. Hein? Il n'y en avait pas un qui était supérieur à l'autre, ne valait pas plus qu'un autre, parce que ce n'était pas son compte en banque qui déterminait sa valeur, mais c'était lui. Hein? Et tous étaient pareils. Alors, le prix était très bas, et ils n'ont pas fait payer plus cher celui qui avait plus d'argent. Non, ils disent, c'est ça, c'est le même prix. Et donc, ils avaient été, ils ont dû payer le prix du rachat. Et donc là, il y a une erreur dans le texte, hein, parce que j'ai mis 25 ans et c'est 20 ans. Hein. C'est tous ceux qui avaient été esclaves de Pharaon. Il dit maintenant, parce que il faut comprenons cette notion, c'est que quand on est racheté, c'est parce qu'on était dans un état d'esclavage et qu'on est libéré. Et qu'on comprenne qu'il y a un prix qui est payé pour être libéré. Maintenant, lorsque nous pensons à nous-mêmes, eh bien, nous revenons à dans le Nouveau Testament, eh bien, on dit, mais bon, j'ai jamais été esclave, moi. Non, on n'a pas été esclave d'un homme, mais on a été esclave au péché. Hein, et l'apôtre Paul en parle souvent, que nous avons été esclaves au péché, et Christ est venu pour nous libérer de cet esclavage. Parce que si vous prenez le temps de lire Romains chapitre 7, il parle de cette lutte. J'ai envie de faire et j'arrive pas, je fais pas ce que je veux faire et je fais ce que je ne veux pas faire. Et il y a cette lutte qui en moi, il a dit. Quelqu'un a représenté ça par deux chiens attachés l'un l'autre par une corde et chaque chien tiré de son côté. Celui qui l'emportait, c'est celui qu'on nourrissait. Et un peu dans nous avons deux natures en nous, et chaque nature tire d'un côté, et finalement, c'est celui que je nourris qui l'emporte sur l'autre. Hein, si je nourris la chair, je vais du côté de la chair, et si je nourris le spirituel, eh bien, je vais du côté spirituel. Hein, c'est un peu ce tiraillement qui existe dans la vie. Et comment l'expliquer ? Eh bien, regardons dans 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. Donc, c'est vers la fin de la Bible, là, maintenant. Tout vers la fin de la Bible. Donc, 1 Pierre, chapitre 1. Et je lis les versets à partir du verset 17. Et il parle du fait que nous, en tant que croyants, nous avons été rachetés. 1 Pierre, chapitre 1, verset 17, il dit « Si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, donc si vous appelez Dieu votre père, conduisez-vous avec crainte devant pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Certaines traductions disent « votre pèlerinage sur la terre. » Verset 18, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut, sans tache. Il dit, vous viviez selon une vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents, une nature pécheresse, et vous viviez selon cette nature-là, ce qui est naturel. Mais, il dit, vous avez été racheté. C'est quand Christ est mort sur la croix, il a payé le prix pour que nous puissions être rachetés de cette vaine manière de vivre. En fait, nous sommes la création de Dieu, comme il nous a créés. Normalement, on l'appartient, mais quelque part, Adam nous a vendus, hein, en péchant dans le jardin d'Éden, il nous a vendus et on est tombé sous le pouvoir du péché et de Satan. Et maintenant, Christ est venu, il dit, je veux racheter. Hein, c'est comme les enfants d'Israël, ils étaient libres, ils étaient descendus en Égypte Et puis un jour, ben, ils se sont trouvés esclaves, et Dieu est intervenu, et il les a fait sortir, et il fallait les racheter. Et Jésus-Christ dit, et nous n'avons pas été rachetés avec de l'or ou de l'argent, des choses périssables, mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. Et tous pour le même prix. Là encore une fois, c'est le même principe, hein. Que je sois riche ou pauvre, Christ a payé le même prix pour chacun d'entre nous. Il n'y en a pas un devant Dieu, il n'y en a pas un qui vaut plus qu'un autre. Hein? Et il n'y en a pas un qui vaut moins qu'un autre. Dans le sens que celui-là, il a beaucoup péché. Celui-là, il n'a pas beaucoup péché, il n'a fait que des petits péchés. Il n'était pas très méchant, donc celui-là, c'est moins... Mais celui-là, oh là là, fou. Non, non, Dieu ne regarde pas comme ça. Tous les hommes, on a une âme. Il a mis le prix sur l'âme. Et c'est tout. Peu importe où j'ai traîné mon âme, peu importe dans quoi je l'ai traîné, ce que je l'ai fait dire, ce que je l'ai fait penser, ce que je l'ai fait agir ou réagir, peu importe où j'ai amené mon âme, il paye le prix d'une âme. Pas de distinction. Et donc, il a racheté, il a dit, il nous a racheté. Regardez ce que nous étions avant, versets 14 et 15, il dit... comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Il dit, ça y est, on a été rachetés, et même il a payé un grand prix. Il dit, mais alors ne retournez pas là où vous étiez avant. Hein, ce serait terrible si l'histoire des enfants d'Israël était qu'ils étaient sortis de l'Égypte, ils avaient traversé la mer Rouge, ils arrivent dans Canaan et puis ils disent oh, bon, on va retourner en Égypte. On va retourner en Égypte et se remettre sous l'esclavage. Ils disent mais ça ne va pas. Mais nous ne devons pas le faire non plus dans notre vie spirituelle. C'est plus retourner là où nous étions. L'apôtre Paul, il insiste beaucoup et il est bien placé pour insister parce qu'il sait ce qu'il était, lui. Hein. Lui est un homme violent, persécuteur. Il a dit, moi, je suis le plus grand des pécheurs parce que j'ai persécuté l'Église. C'est pas seulement que j'étais égoïste et méchant et ceci, cela. Il dit, quant à la loi, j'ai gardé la loi. Mais finalement, j'étais violent. Mais... Alors il dit aux Corinthiens, les Corinthiens, vous savez certainement que ce n'étaient pas des bons chrétiens. Hein. C'était des chrétiens, mais après ils avaient pas mal de mauvaises habitudes et mauvaises choses qui étaient entrées dans leur vie. Mais c'est bien aussi que Paul dise ça à eux, parce que comme ça nous rassure que même si nous sommes tombés dans le péché, même si nous sommes retournés dans le péché, eh bien, la vérité, ce que Dieu a fait reste. Hein. Je ne peux pas défaire ce que Dieu a fait pour moi. Et donc, dans 1 Corinthiens chapitre 6, je vous lis, au verset 19 et 20, dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous avez reçu de Dieu ?» et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Vous avez été racheté à un grand prix. Lui, pour les enfants d'Israël, là, quand ils ont fait le dénombrement, c'était un petit prix pour tous. Mais pour nous, Dieu a placé un grand prix. Vous savez, c'est extraordinaire. Imaginez, vous allez dans une brocante, vous voyez un vieux meuble là, qui est vraiment, on ne sait même pas pourquoi il est là. Et il y a une petite étiquette dessus qui dit 5 euros. Et vous rentrez, vous dites au propriétaire, écoutez, moi je vais vous acheter ce meuble, mais moi je vais payer 1000 euros.
Quoi ?
Il dit oui, moi je décide que ça vaut 1000 euros et je vais payer 1000 euros. C'est lui qui paye, hein. Il a le droit s'il veut. Bon, ça n'arrive pas souvent. Hein. Moi, si je le fais une fois, c'est terminé. Hein. Je suis bon pour l'année. Mais après, le gars, il prend ce petit meuble, il le met à la maison, il l'arrange, il le nettoie, il le répare, il restaure et tout ça. Puis les gens, ils disent, ouais, il est beau ce meuble. Combien tu as payé ? 1000 euros. Ah ouais, ça vaut le coup. Oui, mais c'est, vous avez vu comment ça marche ? Il a pas payé selon ce que c'était, mais ce qu'il pouvait faire de ce meuble. Vous savez, c'est ce que Dieu a fait avec nous. Il nous regarde, et ce n'est pas en fonction de ce que j'ai vu à la brocante, c'est en fonction de ce qu'il pouvait faire de moi. Et donc, il a payé un grand prix. C'est lui qui l'a fixé, et c'est lui qui l'a payé. Et ça, vous dites, oui, je ne comprends pas Dieu. Oui, non, moi non plus. Mais il a dit, c'est ça la valeur que je veux. J'ai entendu une fois l'histoire, c'est dans une culture où il y a une dot à payer pour une épouse. Alors, dans cette région, alors... Le prix pouvait aller de 2 vaches à 5 vaches. Si elle était vraiment belle, elle savait faire la cuisine, en plus travailler, et puis savait faire des trucs, c'était 5 vaches. Et cet homme, il dit, moi, je veux avoir celle qui a coûté le plus cher de toute notre communauté. Il a été voir le père, il a dit, moi, je te donne 7 vaches. Il dit, 7 vaches?
Oui.
Je te donne 7 vaches pour ta fille. Ah ben, si tu veux. Hein. Il est parti. Et le résultat, c'est qu'il avait la réputation d'avoir eu une femme qui vaut 7 vaches. Elle vaut 7 vaches, pourquoi ? Parce que c'est ce qu'il a payé. Comprenez ? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut payer un prix pour une femme, ou il y a un prix, ou... C'est pas ça. Le truc, c'est que c'est... Elle vaut le prix que j'ai payé. Et Dieu dit à chacun d'entre nous, j'ai fixé le prix de ce que tu vaux pour moi. J'ai laissé mourir mon fils. Comprenez le principe ? Et donc, c'est pour dire que combien Dieu nous aime, combien Dieu... Nous avions de la valeur aux yeux de Dieu. Et donc, il a fixé le prix, il a payé le prix, et après il dit, vous savez, je vous ai racheté un grand prix, hein. N'oubliez pas. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? On dit merci. Mais c'est ça le principe de comment Dieu a décidé du prix. Donc ce n'était pas le prix du marché, c'était le prix, ce que nous valions à ses yeux. Et alors, il nous dit que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, on l'a déjà lu. Nous avons été rachetés à un grand prix, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23 répète encore la même chose. Il dit, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Il dit, ne retournez pas sous l'esclavage que vous étiez avant. Ne retournez pas, c'est pas eux qui décident de ce que tu fais maintenant. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu. Et quand je me mets sous l'autorité de Dieu, c'est là que je suis libre. C'est comme, vous prenez un poisson, et vous le mettez vous le jetez dans la mer, et vous lui mettez la contrainte d'être dans l'eau. Oui, mais pour eux, c'est vivre. Hein? On dit même en français, on dit comme un poisson dans l'eau. Pour lui, c'est vivre. On dit, oui, mais tu sais, tu pourras exister que dans l'eau, hein? Tu ne pourras pas ailleurs. Il dit, c'est là. Mais c'est, en fait, parce qu'il a été créé pour vivre dans l'eau. Et nous, l'être humain était créé pour être en communion et en relation avec Dieu. Et finalement, lorsque je me place de nouveau sous cette contrainte, j'emploie le mot, hein, contrainte de vivre pour Dieu, mais finalement, c'est là que nous nous épanouissons. Et c'est là que je vis. Hein. je retrouve le milieu pour lequel j'ai été créé. Hein, comme le poisson qui est remis dans la mer au lieu de rester dans un bocal. Nous avons été rachetés à un grand prix. Apocalypse chapitre 5, verset 9, il nous parle de cette vision des événements futurs et il nous dit que nous serons comme, il dit, c'est des gens, et cette multitude de gens qui sont sauvés. Et il dit, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Mais tu les as rachetés par ton sang, et puis tu fais d'eux un royaume, des sacrificateurs, ce que tu as de meilleur qu'on peut offrir à l'homme, et puis s'épanouir, c'est ça. Il nous a libérés pour nous donner ce pourquoi on a été créé. Et vivre devant Dieu, vivre en communion avec Dieu, au lieu de... Je me rappelle une fois que j'ai essayé de faire du... comment dire... dans l'eau, là, puis j'ai essayé de respirer à travers d'un tube. Oui, plongée sous-marine là, et puis respirer par un tube. C'était les premières fois, hein, c'était pas évident. Hein. Parce que d'abord, et puis il faut attendre un bout hein, pour qu'il y ait de l'air frais qui arrive. Il faut bien tirer pendant un bout hein, parce qu'il faut vider tout le tube déjà pour avoir de l'air frais. Et après, quand on veut chasser, il faut chasser tout ce qui est dans le tube pour arriver à de l'air frais qui puisse arriver. Et puis tu es sous l'eau et tu es en train de penser à plein de choses. Ah, c'était terrible. C'était beaucoup, beaucoup plus facile de sortir de l'eau et puis à respirer. Hein. Mais c'est un peu ça aussi. Là. Celui qui vit sans Dieu, il est en train d'essayer de survivre dans un milieu qui n'était pas vraiment pour lui. Et il fait de gros efforts pour avoir un petit peu d'oxygène pour essayer de s'en sortir. Alors que quand Dieu nous rachète, il nous libère. Et puis alors on respire. C'est ça le rachat de Dieu. C'est ça ce qu'il a fait pour nous. Hein? Et là, quand je reviens à Romains chapitre 8, donc, où nous avons lu déjà au début, Romains chapitre 8 et le verset 23, il parle de la rédemption de notre corps. Donc là, jusque-là, on a essayé de comprendre le mot rédemption dans la pensée de Dieu. Qu'est-ce que voulait dire rédemption ? Mais il a dit la rédemption de votre corps. Il dit, ah bon, moi je croyais toujours, je pensais que Dieu, c'est pour notre âme, c'est notre âme qui va au ciel, c'est notre esprit qui va au ciel. Et vous savez ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu a dit, non, c'est pas seulement l'âme et le corps, je veux le corps aussi. Et je paye le prix pour le corps aussi. Je veux l'homme tout entier. Corps, âme et esprit. Il y en a qui ont cette idée des petites âmes là-bas, et puis c'est des petits anges qui volent dans le ciel, et puis oui, mignon, ça fait joli pour des dessins. Mais c'est pendant l'éternité, faire un petit oiseau là, qui vole dans le ciel, c'est tout ce qu'il a obtenu pour nous. Non, il a dit, je vous ai racheté, j'ai déjà racheté l'âme et l'esprit, et un jour je reviendrai pour racheter le corps. Le corps, il est encore là. Le corps, eh bien, il y a encore cette nature pécheresse. Le corps, c'est encore le corps qu'on avait avant, dans lequel on vit. C'est un peu comme on a la personne, elle est toute fraîche, mais le vêtement, c'est les habits d'avant la douche. Aïe. Pourtant, je sais que je suis propre, mais bon, ça sent pas bon. Mais c'est un peu la frustration qu'on a dans notre vie chrétienne quand on marche. On est racheté dedans. Il dit, vous êtes une nouvelle nature, vous avez une nouvelle création, mais l'enveloppe, elle est encore, c'est l'ancienne enveloppe. Et il y a une frustration là. Hein, je suis d'accord avec vous. Il y a une frustration, le corps, il veut certaines choses, parce qu'il était habitué à certaines choses, Et puis, vous savez, vous avez déjà vu les enfants, vous l'amenez chez les invités, là, puis on arrive chez les invités, ils ont préparé des nourritures, mais dans l'art, selon l'art de la chose. Et puis, vous avez un petit gamin qui revoit tout ça, et puis dit, je veux des chips. Ah. Oui, mais c'est un peu ça. Il est habitué aux chips, et pour lui, tout ça, je ne connais pas, mais les chips, je connais. Je veux un chips et des yaourts. Ah oui, mais tiens, un cuisinier là de... Ah non, je veux des chips et yaourts, ou du ketchup par-dessus, pour faire vraiment bien. Mais oui, mais vous savez, c'est un peu ça, l'enfant de Dieu, qui a été régénéré, puis après il veut encore la nourriture de ce qu'il avait avant, qui n'était pas vraiment bonne pour lui, c'était pas sain, ça le maintenait en vie, mais c'était pas vraiment sain, il avait un drôle de régime avant, et Dieu prépare quelque chose de nouveau. Il dit donc, c'est vrai qu'il dit, la terre souffre, c'est ça qu'il dit dans le verset, la terre souffre, mais nous aussi nous souffrons, parce que nous sommes encore dans ce corps qui n'a pas été racheté. Mais il dit, nous espérons, nous savons, et ce n'est pas espoir, un vain espoir, j'espère, comme ceux qui disent, ils jouent les quelques numéros à la loterie, là, et puis il espère qu'il va gagner, sans avoir aucune garantie. C'est pas comme ça avec Dieu. Quand on espère avec Dieu, c'est qu'il nous a fait une promesse. Et comme il nous a fait une promesse, eh bien, on attend que ça vienne, c'est tout. Il dit quand, c'est pour ça qu'après, il parle de... on ne le voit pas, mais on sait qu'on va l'avoir. Et parce qu'on sait qu'on va l'avoir, et on persévère. Et donc, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Il dit au verset 24. Hein, nous savons, il l'a promis. Et même, nous avons une preuve que ça marche et que c'est possible. Parce que, vous vous souvenez, Jésus-Christ est ressuscité. Et quand il est ressuscité, son corps était comment? Bon, on a pu le reconnaître. C'était un corps, un vrai corps. Il a mangé, hein. Il a dit aux disciples, touchez-moi, il dit un fantôme, il a pas des os, hein. Moi, touchez-moi, j'ai des os, j'ai des muscles. Hein. Mais en même temps, il partait, il revenait, c'était quand même autre chose. Son corps ressemblait à celui d'origine, mais ce n'était pas tout à fait la même nature. Mais c'était un corps qui lui donnait beaucoup de liberté. Il venait sur terre, il partait dans le ciel, il dit, j'ai pas encore été chez mon père, donc ne me touchez pas. Et puis un peu plus tard, il revient, il dit, vous pouvez me toucher là, parce que ça y est, j'ai déjà été chez mon père. Il a fait un aller-retour. Aujourd'hui, on se dit, mais comment est-ce qu'on va faire pour arriver jusqu'à Mars, vivre jusqu'à arriver là-bas, puis après revenir. Et là, Jésus-Christ est parti. Il me dit, Steve, tu rêves, alors là, tu rêves. Non, je crois en un grand Dieu. Et pour lui, ce n'est pas un problème. Et il dit, regardez en Philippiens chapitre 3, Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21. Il dit, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Il va prendre notre corps, le corps d'humiliation, le corps qui nous... Hein, c'était le... Jésus, il a su ce que ça veut dire. Parce que lui, il a dû, pendant 33 ans, il a dû vivre dans la contrainte d'un corps. C'est-à-dire, pour aller quelque part, il fallait marcher. Pour continuer à marcher, il fallait manger. Pour lui, il dit, ça, c'était le corps de l'humiliation. Il dit, vous vivez dans ce corps qui est vraiment... C'est pire qu'une camisole de sécurité. Hein, c'est vraiment... Vous n'arrivez pas à faire grand-chose. Mais il dit, mais Jésus-Christ viendra. et donnera un corps qui nous donnera une liberté. Donc c'est pas étonnant qu'après il crée un nouveau ciel, une nouvelle terre. Hein. Vous lisez à la fin de la Bible, il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre. Pourquoi ? Parce qu'on va faire de l'aller et le venu hein, avec les deux. Hein. Ça va faire partie de notre monde de nouveau. On ne sera pas limité à une petite atmosphère autour d'une petite boule de terre au milieu d'un vaste univers. Ce sera plus cette restriction. Il transformera notre corps. Il faudra pas mal de transformations, hein, parce que là, pour l'instant, un cosmonaute, qu'est-ce qu'il lui faut comme matériel pour pouvoir rien que sortir de l'atmosphère ? Eh bien, regardez dans 1 Corinthiens chapitre 15, je vous ai donné les feuilles, vous avez les références, et vous pouvez relire ces passages hein, par la suite, hein, parce que là, je vais assez rapidement. Mais 1 Corinthiens chapitre 15, c'est le chapitre sur la résurrection, et je vais lire rapidement ce qu'il dit. Donc 1 Corinthiens chapitre 15, et je lis à partir du verset 35. Dites, bon, il y a résurrection, et qu'est-ce qu'on aura comme corps ? Ben, verset 35, il dit, si quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps deviennent-ils ? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Il dit déjà, première chose, dans la vie, c'est comme ça. La graine que tu sèmes, elle doit mourir, sinon tu n'es pas une nouvelle plante. Il dit, c'est le principe de la vie. Il dit, réfléchis, tout le monde sait ça. Même pas besoin d'aller à l'école pour savoir ça. Je crois que ceux qui grandissent en ville, ils ont besoin d'aller à l'école pour l'apprendre. C'est ceux qui habitent dans la campagne qui le savent. Et après, il dit, verset 37, « Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé, peut-être, ou d'une autre semence. Et puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. » À chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Il dit, ce que tu sèmes dans la terre, c'est un petit grain. Et certains grains sont vraiment petits. Hein. Il dit, mais ce qui apparaît ensuite ne ressemble pas du tout à ce qu'on a mis dans la terre. C'est quand même autre chose. Et beaucoup plus grand, plus glorieux, avec beaucoup plus de capacité. C'est vrai que le grain, il contient l'ADN, il contient un miracle. Mais il dit, le corps qui en est issu, c'est extraordinaire. Il dit, c'est pareil, hein. Votre corps qui est semé, il se met dans un certain état, mais quand il réapparaît, eh bien c'est carrément autre chose. Verset 39, toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat du corps céleste, autre est celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible, donc immortel. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devient une âme vivante, le dernier Adam, c'est-à-dire Christ, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme a été tiré de la terre, il est terrestre. Le second homme, il est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Et voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Il dit, s'il y a un corps naturel, il y a un corps spirituel. Il dit, voilà, Donc la rédemption du corps, ça veut dire que Jésus-Christ, qu'il rachète, ce corps que nous enterrons, que nous brûlons, que nous... peu importe ce qui lui arrive, eh bien il dit, finalement il n'a pas besoin de ça, il ressuscite et nous donne un corps glorieux, qui nous permet d'atteindre tout ce qu'il a prévu pour nous. Parfois, je suis un peu... Il y a des gens qui disent « Ah, le ciel, il y a de l'or, il y a... » Vous savez, l'or. Ici, quand on est sur Terre, l'or, c'est quelque chose. Mais vous arrivez aussi à l'or, qu'est-ce que ça va vouloir? Qu'est-ce que tu vas faire avec de l'or? Il n'y a rien à acheter, c'est pas besoin de manger. Dire, ben, tout est là, il n'y a pas... Vous savez, on essaye de prendre les valeurs de Terre, on essaie de les appliquer au ciel pour essayer de comprendre le ciel. Non, 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 c'est autre chose, autre chose. Ça ressemble à rien. C'est la chenille qui rampe sur le sol, qui a certains prédateurs, et puis elle essaie d'imaginer ce que c'est être un papillon. Elle ne peut pas, aucune idée. Mais c'est pas. Tout ce que je sais, c'est celui qui s'occupe de cette partie-là, c'est quelqu'un qui a déjà fait des preuves, déjà dans sa propre vie. Vous savez, si quelqu'un peut se ressusciter, je vais croire qu'il peut me ressusciter. Parce que lequel est plus simple? Les deux impossibles. Ah oui, mais s'il arrive à se ressusciter, mourir et se ressusciter alors qu'il est mort, c'est plus fort que ressusciter quelqu'un d'autre. Et notre cas, le corps, eh bien... ressuscité ressemblera à celui de Christ. Dernier passage, donc dans 1 Pierre, chapitre 1, on va revenir à ce passage que nous avons lu plus tôt. Donc, en vue de tout cela, hein, donc cette partie-là, la rédemption du corps, le rachat que Dieu a préparé, il s'en occupe, il le fera très bien. Maintenant, quelle est ma part? Ce n'est pas d'essayer d'imaginer comment sera le ciel. Ma part, c'est il dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 13, et je lis, il dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, c'est-à-dire votre intelligence là, mais secouez-la, soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus-Christ apparaîtra. Et il y a des choses qu'il a en vue à cause de la grâce qu'il apporte. Hein? Verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Parce que maintenant, vous n'êtes plus dans l'ignorance. Maintenant, vous avez été informé. Hein? Vous êtes au courant. C'est plus pareil. Hein? On ne peut plus dire « Ah, je ne savais pas ». Ça y est, je sais maintenant. Hein, ça y est, je ne peux plus faire marche arrière, je ne peux plus faire semblant que je ne savais pas. Je sais maintenant. Donc, il dit, je suis responsable. Il dit, verset 15, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saint. » Saint ne veut pas dire sans péché, ça veut dire consacré à. Hein, il est consacré. Sacré, saint, sacré, c'est même consacré, c'est-à-dire mis à part pour. Hein. Donc soyez saints, c'est-à-dire maintenant consacrez-vous à Dieu. Soyez saints comme il est saint dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite, dans ce que je fais. Donc la meilleure manière pour moi d'exprimer le fait que je crois que Jésus-Christ a payé le prix pour racheter mon corps, c'est en commençant dès maintenant à vivre comme si j'avais le nouveau corps. Et à vivre pour lui. Ça veut dire que je crois. Si je vous promets 10 000 euros, je dis je vais te donner 10 000 euros la semaine prochaine. Si vous croyez, Je comprendrai si vous ne croyez pas. Si vous croyez, vous allez commencer dès ce soir à commencer à faire la liste, qu'est-ce que je vais acheter avec ces 10 000 euros. Mais si vous ne le croyez pas, on verra. Ça va déterminer comment je vais passer cette semaine. Soit je fais des projets, comment, ou bien je continue à vivre comme je vis. La question, Dieu nous a fait des promesses. Ou bien je crois ces promesses, donc je fais des projets en vue des promesses, et je vis, ma vie change parce qu'il y a des nouvelles promesses, ou bien je ne crois pas et je continue à vivre comme j'ai vécu jusque-là, et ça ne change rien. Et là, c'est à chacun de être responsable pour sa propre vie. Mais on ne peut plus prétendre l'ignorance, puisqu'on l'a lu, on est informé. Et que Dieu nous aide à mieux comprendre. Et vous prenez ces notes, vous relisez. Bien sûr, c'est juste quelques versets, on pourrait en trouver beaucoup plus. Mais juste quelques-uns, relisez, repensez. Dire quand même, ce que Dieu a prévu, c'est qu'il a quand même prévu quelque chose qui est dans mon intérêt, qui est intéressant pour nous, s'il suffit de le croire. Prions.